Kompass bringt fremde Kulturen ins Rübliland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, 20 Uhr auf Radio Kanal K. Es ist Zeit für die Sendung Fenêtre sur l'Afrique, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Die politische Situation in Libyen in sehr kritisch. Die Rebellion kontrolliert im Moment das Land zu 25%. Ist das wirklich endgültig des Ende von Gaddafi? Wir diskutieren damit mit unserem Gast auf per telefonisch. Ich bin Sylvain Amos am Mikrofon. Viel Spaß auf Radio Kanal K. Bonsoir Libye, bonsoir Lomé, Accra, Togo, Abidjan, Addis Abeba, sinon bonsoir à toute l'Afrique. Bienvenue à la page panafricaine du Radio Kanal K en Suisse alémanique dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique. Le régime du guide libyen Muammar Kadhafi est en train de tomber sous la rébellion aidée par l'OTAN. Est-ce vraiment la fin du dictateur Kadhafi? Sven Bedouni, responsable de la voix des opprimés, sera dans une quinzaine de minutes l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Au Togo, malgré sa volonté de participer à la relance du dialogue politique proposé par le gouvernement de Florian Singhé, le FRAC, Front Républicain pour l'Alternance et le Changement, est toujours dans les rues pour ses manifestations hebdomadaires. Nous allons également retrouver dans un instant notre correspondant Fabi Kouassi, qui sera en direct depuis Lomé et nous fera également un compte rendu de la situation politique de la semaine au Togo. Et sous l'œil vigilant de Gisela Rossato, Josué Maouli et Esteban Gagnon s'occupent de la programmation, soutien permanent de Prince Freddy et de Romain Koudodi. Romain, bonsoir.
Oui, bonsoir, cher confrère Amos.
Romain, comment vas-tu?
Oh, je vais très très bien.
Merci beaucoup, Romain. Et également la parfaite collaboration de nos deux correspondants. Il s'agit de Fabi Kouassi et de Rodé Lawson. Fenêtre sur l'Afrique, réalisation et présentation, Sylvain Amos. Encore une fois, amis fidèles auditeurs, auditrices du Radio Kanal K dans Fenêtre sur l'Afrique, bienvenue à l'émission. Et sans plus tarder, je vous livre tout de suite l'éditorial de Romain Koudodi qui parle de la guerre en Libye. Guerre en Libye, entre désinformation et mensonge. La politique, c'est l'art de mentir. Fait croire à l'ennemi que l'on veut ce que l'on ne veut pas. L'on est là où on n'est pas. En bref, savoir cacher ses intentions. Charles de Gaulle. La coalition des forces impérialistes vient de venir à bout du régime dictatorial de Muammar Kadhafi et de sa dynastie. Sur le front Est, Britanniques et Français s'activent afin d'aider les rebelles à faire tomber le fief kadhafiste de Sirte. Des agents en civil en mission secrète seraient installés, et ce depuis plusieurs semaines, en Libye, dans le but de capturer Kadhafi. Sur le plan diplomatique, nous assistons à une puissante désinformation de l'événement inhumé à Tripoli par les médias France 24 et autres. Plus surprenant a été le fait que la CPI et France 24 ont annoncé l'arrestation des fils de Kadhafi Islam et autres appuyés par Louis Moreno, qui avait aussi confirmé la désinformation avant de se rétracter. Au même moment, Islam pavanait les rues de Tripoli. C'est ici le lieu de le dire. Même si en guerre, tous les coups sont permis, France 24 n'a pas du tout joué sa crédibilité. Que ce soit Saif al-Islam, Mohamed Kadhafi, Hannibal Aïcha Khamis, Saif el-Arab, Milad Abou Taïa, aucun n'a été arrêté. Sur ce plan, nous sommes formels. D'ores et déjà, la France et les États-Unis, les Britanniques, se positionnent de manière favorable dans la Libye, de l'après-Kadhafi qui n'entendront visiblement pas l'accord de l'ONU avant le partage du gâteau. Que dis-je ? La privatisation du pétrole, du gaz et d'autres ressources en Libye. Avec votre permission, ouvrons tous ensemble une fenêtre sur Tripoli pour répondre à des interrogations non des moindres. À quand donc la prise de conscience des Africains ? Que l'OTAN et l'ONU soutiennent une rébellion dans un pays alors qu'elle s'en oppose à toute prise de pouvoir par celle-ci dans un autre registre devait nous faire réfléchir sur les motivations réelles de cet appui. De quoi sommes-nous capables ? Kadhafi doit partir. Oui, évidemment, le pouvoir use. Après 40 ans, il doit vider le pavé. C'est incontestable. Mais entre la dynastie de Kadhafi qui fuit actuellement le pays et l'OTAN qui continue les bombardements à Tripoli et d'autres banlieues de la Libye, Benghazi, Ras Lanouf, Misrata, qui est le plus criminel ? Toutes ces interrogations n'auront pas de réponse tant que nous ne comprendrons pas, nous Africains, que notre survie dépend de notre propre capacité à résoudre nos conflits internes. En cette période du Ramadan, nous joignons nos voix au peuple frère, peuple martyr de la Libye, en disant d'une seule voix, « Allahu Akbar, Dieu est grand. » Romain Koudjadji.
On ne cache jamais la lumière du soleil. Longue, longue, de libération, le bébé. Avant de te montrer de moi, il faut te regarder.
Dans un miroir, oh, il faut te regarder.
Avant de juger les autres, faut te juger, yeah, yeah.
Dans un miroir, oh, oh, il faut te regarder.
Avant de critiquer les autres.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
On a tout compris de Tikenja Fakoli. Et malheureusement, toutes nos excuses, hein, le CD de Longue Longue de Camerounais ne veut pas aller de l'avant. On a quand même pu passer Tikenja Fakoli. Merci pour votre patience, merci pour, également pour votre compréhension. Nous devons prendre tout de suite Semaine Bedrouni, qui devrait être normalement notre invité et de Fenêtre sur l'Afrique de ce soir, et pour discuter de la crise en Libye, de la guerre en Libye. Malheureusement, nous n'arrivons pas à le joindre, il est toujours injoignable. Mais nous allons tout de suite prendre notre correspondante Fabi Kouassi au Togo, puisqu'elle est déjà en ligne. Nous allons la prendre tout de suite. Fabi Kouassi, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé et merci également pour votre parfaite collaboration. Fabi, vous suivez pour nous les manifestations du FRAC, un fonds de regroupement politique qui n'entend pas du tout baisser les bras pour les manifestations, malgré leur volonté de participer au dialogue qui vient de relancer le gouvernement de Florian Singbé. Quel message concret a sanctionné la marche de ce samedi, Fabi Kouassi?
Oui, Sylvain, tu as tout dit. Hein. La traditionnelle marche du FRAC a encore eu lieu, malgré la très faible mobilisation du fait de l'absence de Jean-Pierre Fabre, pour faute de tourner, à en croire certains responsables du FRAC. En tout cas, au meeting de ce samedi à la plage du Changement, l'affaire du riz toxique a été largement commentée par le patron du Parti des travailleurs, Claude Amégambi, qui demande aux populations de manifester jeudi prochain dans les rues de Lomé pour empêcher que ce riz impropre à la consommation ne soit déversée sur le marché. Alphonse Kobo de la DIL met en garde le cerveau des tripatriates de nos tests, le français Charles Debache, contre une nouvelle modification de la Constitution. Par ailleurs, dans la perspective de la décision de la Cour de la CEDEAO, qui doit statuer le 29 août prochain sur le cas des députés ANC chassés de l'Assemblée nationale, la DIL, le parti de professeur Aimé Tchabouré-Gogué, demande aux populations togolaises de se mobiliser massivement pour accompagner les députés pro-femmes au siège du Parlement le 3 septembre prochain, jour de la rentrée parlementaire. Rappelons que l'ANC est toujours dans les plateaux, 15 jours pour Jean-Pierre Fabre et sa suite dans les villages et hameaux, dans le cadre d'une tournée d'explications sur la crise sociopolitique qui secoue notre pays depuis plusieurs années. L'ANC demande aux populations de se mobiliser pour dire non à l'injustice, à l'arbitraire, le non-respect des lois de la République et réclamer une véritable démocratie où seul le peuple est le détenteur du pouvoir.
Oui, Fabi Kouassi, l'affaire Kwacha Nyasimbe continue de susciter de vives réactions au sein de la classe politique au Togo. Hein. Et même, je l'avais dit la semaine passée avec Rodrigue, et même au sein du RPT, il y a une division. Il semblerait qu'un avocat du collège de défense de Kwacha Nyasimbe, dans le dossier de projet d'entente à la sûreté de l'État, a confirmé l'ouverture du projet pour le 31 août prochain, Fabi.
Exactement, le Bachagate, hein, du nom de la ténébreuse affaire de tentative d'atteinte contre la sûreté de l'État, va bientôt connaître son épilogue. Le procès du siècle au Togo va se tenir le 31 août prochain. Dans la foulée, les avocats du député de la COSAT, demi-frère du chef de l'État, entre autres, Maître Raphaël Pandé Adjaré, Gilles Benoît Afouane-Bédié et Jonas Sopo, ont pu rencontrer leurs clients incarcérés depuis plus de 2 ans dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement en violation des dispositions légales. C'était le jeudi 25 août dernier. Le mercredi prochain donc, sauf changement de calendrier, Lomé est censé vibrer au rythme de ce procès tant attendu par l'opinion. Comme pour les cas Bertin, Agba, Oussama et Sohablon, de nombreuses irrégularités maillent ce dossier qui fait dire à certains Togolais que c'est encore un des montages les plus grotesques du siècle, comme seul le Togo s'est en fabriqué.
Oui, et notre confrère, le directeur de publication de l'Indépendant Express, Carlos Komlanvi Ketou, a comparu mercredi dernier en citation directe sur requête de Madame Begedou Julie, directrice de la société Élysée Contran. Alors, c'était dans l'affaire du riz contaminé. L'audience est renvoyée au 7 septembre pour défaut de paiement de caution. Fabi Kouassi, pouvez-vous nous donner plus d'amples informations sur cette affaire du riz contaminé à Lomé au Togo?
Oui, l'affaire du riz toxique continue d'alimenter les débats et fait la une de la presse ici, ce qu'il est convenu d'appeler désormais l'affaire du riz Julie Begedou, du nom de l'importatrice et concubine du chef de l'État togolais. Cette invitée, comme vous le disiez, au palais de justice mercredi dernier, à la suite d'une citation directe de Dame Begedou à l'encontre du confrère l'Indépendant Express, qui a publié l'alerte sur ce riz qui serait impropre à la consommation dans un article intitulé « Julie Begedou va porter atteinte à la sûreté des consommateurs, danger de mort ». 90 000 sacs de riz toxiques vont être déversés sur le marché. La presse et les populations ont invité par SOS journalistes en danger à investir. La justice, pour exiger la vérité, ont répondu nombreux à ce rendez-vous judiciaire qui est renvoyé au 7 septembre pour faux de paiement de la caution par la partie plaignante. Pour l'heure, la plupart des Togolais estiment que saisir la justice ne règle pas le problème de la toxicité ou non du riz et optent pour, comme l'Association togolaise des consommateurs ou encore les partis politiques, le CAR, l'ANC, ou enfin l'association SOS Journalistes en danger pour une contre-expertise indépendante et internationale pour situer l'opinion. Rappelons, Sylvain, que plusieurs zones d'ombre émaillent ce dossier qui conforte les presses qui ont publié la lettre, notamment Indépendant Express et Liberté, et l'opinion sur la qualité douteuse du riz. Première zone d'ombre, la sortie hasardeuse des scandaleux du ministre du Commerce, Artem Mahomé Zounou, qui au lieu de proposer des mesures conservatoires, prend parti pour la femme de son patron. En effet, le communiqué du ministre réfute les allégations les qualifiant de fausses informations reposant sur des interprétations fantaisistes émanant de personnes non qualifiées. Cependant, dans le même communiqué, le ministre du Commerce reconnaît avoir demandé à titre de précaution que la surface du riz inspecté soit raclée à une profondeur suffisante afin d'enlever les cendres résiduelles. Deuxième zone d'ombre, la directrice d'Élysée Contran, Julie Begedou, a laissé entendre elle-même au cours d'une conférence de presse que la partie cassée était détruite. Les agents phytosanitaires du Togo, n'ayant pas l'habitude de constater ce type de chargement, ont procédé à des analyses. Cette dernière révéleront qu'il y a eu des taches du produit de fumigation sur les couches superficielles du riz chargé, car ce n'est pas dans les sacs. Les services phytosanitaires ont donc préféré que la couche concernée soit alors prélevée, détruite, ce qui a été alors effectué. C'est ce qu'elle a expliqué in extenso aux journalistes, sans oublier de nombreuses interrogations sur la provenance du riz qui viendrait des États-Unis. Selon l'importatrice, mais selon la presse, ce riz provient de la Thaïlande. À cet effet, le quotidien Liberté a publié courant cette semaine un document du port sur l'origine de ce riz. Pourquoi une telle quantité de riz arrive-t-elle en vrac au Togo sans oublier l'utilisation de la fumitoxine, une substance qui est interdite sur le marché mondial? Autant d'interrogations qui alimentent ici les débats. À ce jour, le gouvernement n'a daigné donner suite à l'appel de l'association des consommateurs qui demandent une expertise qualifiée pour situer l'opinion et selon les informations, ce riz attend toujours au port en attendant donc un dénouement heureux ou malheureux pour les uns et les autres. Le débat s'anime.
Fabi Kouassi, merci et rendez-vous samedi prochain pour d'autres actualités politiques au Togo.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
aller au haut, il faut le pêcher. Avant de me culpabiliser, il faut réfléchir.
Dans un miroir, oh, il faut te regarder.
Eh bien, nous avons...
Avant de condamner...
Nous avons finalement réussi à joindre M. Smen Bedrouni, et qui est en direct maintenant et depuis la France. Le régime de Kadhafi est au bord du gouffre. En début de cette révolution libyenne, il y a environ 6 mois, Kadhafi avait promis à l'OTAN, qui soutient la rébellion, que la guerre sera longue. Aujourd'hui, après avoir passé près de 42 ans au pouvoir, le régime de Kadhafi tombe tout doucement. Ailleurs, la France de Nicolas Sarkozy peut être considéré comme le grand gagnant. Du coup, les perdants sont l'Union africaine et surtout l'Afrique du Sud, qui ont apporté leur soutien indéfectible aux guides libyens. L'ont-ils fait à tort ou à raison? Cette question reste un débat qui ne fait que diviser les Africains. Tout compte fait, Kadhafi n'a pas encore joué sa dernière carte. Et puisque Smen Bedrouni est actuellement en ligne depuis... la France, nous allons le prendre tout de suite. Monsieur Smen Bedrouni, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Smen Bedrouni, vous êtes journaliste d'investigation, responsable du site d'information La Voix des Opprimés. Il y a seulement quelques semaines, vous avez organisé une semaine porte ouverte sur la Libye et sous le règne de Kadhafi. Aujourd'hui, reconnaissez-vous que le régime de Kadhafi appartient désormais au passé, Smen Bedrouni?
D'abord, vous reprenez le terme dont je vous avais parlé, récemment, c'est-à-dire le régime. Moi, je me demande ce qu'on appelle un régime en premier. Est-ce que on va parler de régime de Kadhafi ou on va parler du régime de l'OTAN, du régime de Sarkozy, du régime de BHL aussi? Vous voyez, donc moi, pour moi, ça n'a ce qui est en train de se passer en ce moment. Je pense qu'il faut vraiment être honnête intellectuellement et en matière d'analyse. Hein. Je crois qu'il faut être honnête déjà envers soi-même et envers ce qu'on est en train de voir en ce moment et de ce qui est en train de se passer. On voit que les médias sont en train de nous mentir. Et ça, on le sait depuis le début. Les gens s'en rendent compte de plus en plus à cause de la résistance qui est en train de travailler sur Internet pour dénoncer les mensonges médiatiques et la supercherie de toute cette opération politico-médiatique et militaro-politico-médiatique. Les populations sont en train de se rendre compte de la réalité. Donc tout ça, c'est il y a on nous montre à la télévision ou dans nos médias un cinéma, mais la réalité sur le terrain, elle est terrible. La réalité, c'est quoi? C'est que il y a des milliers de morts, il y a des milliers de blessés, et que la situation humanitaire est catastrophique dans le sens où, en même temps, il y a une pénurie de médecins, il y a les hôpitaux sont saturés, on arrive allô?
Oui, je vous entends, Smen.
D'accord. Les hôpitaux sont saturés, on manque de médicaments, de matériel médical, et on vient nous parler d'une pseudo-victoire du CNT. Moi, mm-hmm. C'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ce qui est important, en réalité, c'est qu'il y a des populations qui sont en train de mourir, il y a des populations qui sont
oui.
en train de se faire
mm-hmm. tuer. Oui, Smen. Oui, c'est juste, je ne vous retire pas la parole, c'est juste. Mais nous avons tout de suite notre collaborateur Romain Koudodi qui veut certainement vous soumettre également quelques questions. Romain, rebonsoir Romain.
Oui, bonsoir, M. Smen Bedrouni. Merci d'être en direct avec nous.
Oui, bonsoir.
Oui, je voudrais donner une précision assez claire et nette sur la définition de la question de mon confrère de tout à l'heure. Vous réabondez en parlant de quel régime? Il s'agit du règne de Kadhafi de plus de 40 ans. C'est la précision que je viens de faire. Mais en outre, Kadhafi et ses fils sont introuvables en Libye. Et pourquoi, selon vous, battent-ils en retraite si vous affirmez que le peuple est en leur faveur? Pourquoi ne sortent-ils pas?
Oui, Smen Bedrouni.
Bon, moi je viens d'avoir, j'ai eu Tripoli la nuit dernière. C'est
qui est en train de se passer là-bas ne correspond pas du tout à ce que les médias... Enfin, correspond en partie, en matière en ce qui concerne l'horreur, oui. Les médias commencent à montrer, certains journalistes commencent à montrer l'horreur de ce qui est en train de se passer. Moi, je vous invite à regarder... Enfin, ça va être un petit peu trop long si je devais tout expliquer, mais je vous invite à regarder vraiment la réalité en face. Vous venez de me dire « Kadhafi bat en retraite ». Moi, je ne vois pas, c'est pas ça que je vois. Et c'est pas, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Je vois simplement un pays en guerre, une capitale, la capitale d'un pays qui est agressé par une coalition internationale, assistée par des terroristes en armes, avec des jeunes, des pauvres malheureux je sais pas, peut-être 15 ans et 25 ans, armés. Armés par l'OTAN et la France, je vois ces jeunes manipulés et qui ont pris, qui essaient de prendre la capitale libyenne. Et il y a bien sûr des tactiques de guerre, des techniques de guerre, des plans. Les soldats par exemple ont reçu le conseil de déposer leurs uniformes et les véhicules kaki de manière à ce que l'OTAN ne puisse pas savoir qui bombarder dans la capitale. Donc il y a des stratégies, c'est normal, c'est un pays qui est en résistance, c'est un pays qui est agressé, et une des techniques de la guerre, c'est aussi le camouflage. Et les militaires sont en train de faire leur travail, les policiers font leur travail, l'administration fait son travail. Montrez-moi qui a battu en retraite en réalité. Les nouvelles qu'on a depuis des semaines et des semaines, c'est que dès que les forces de résistance ou de l'armée ou de la population ressort pour chasser les rebelles ou les rats comme ils les appellent, les rats disparaissent.
Oui, Sven, selon une expression courante, dans la vie, il faut savoir toute proportion, raison garder. Hein. Et n'êtes-vous pas en train de défendre l'indéfendable, Sven Bedrouni?
Je défends l'indéfendable en défendant justement le droit de l'homme et l'humanité. Donc c'est bizarre, hein. cette question est vraiment étrange pour moi, parce que ce que j'ai toujours fait en réalité, c'est toujours de défendre justement le droit humain et de dénoncer justement les supercheries, les plans qui servent à manipuler des gens qu'on envoie au casse-pipe. Parce que là, par exemple, qu'est-ce qui est en train de se passer en Libye? Ils sont en train d'envoyer ils ont pris des jeunes, ils les ont utilisés, ils les ont manipulés et ils les ont envoyés au casse-pipe. Parce que les nouvelles qu'on a eues, c'est quoi? C'est que ils ont utilisé ces jeunes dont je vous parlais là il y a deux minutes. Ils les ont envoyés, ils les ont ramenés jusqu'à Tripoli. Une fois arrivés à Tripoli, ils leur ont repris les armes des mains. Ils leur ont dit OK, maintenant vous gardez comme ça. Et puis ils savaient très bien que les forces allaient revenir, que la résistance allait sortir. Ils le savaient. Quand ils sont arrivés dans Tripoli, ils leur ont pris les armes aux jeunes et puis ils les ont laissés se faire massacrer par les forces. Et c'est que des jeunes. La plus grande majorité, c'est des jeunes qui sont fait tuer.
Sven, restez toujours en ligne, Sven. Romain me fait signe qu'il a encore des questions. Romain, vous pouvez continuer si vous avez des questions, effectivement, Romain.
Oui, Monsieur Sven, dans un baroud d'honneur, pourquoi Kadhafi ne reconnaît-il pas que son règne a atteint son apogée et faire la paix des braves alors qu'il était encore temps? 40 ans de gouvernance totalitaire, c'est quand même trop, Monsieur Sven Bedrouni.
C'est pas ce que m'ont dit les Libyens sur place. Je suis allé là-bas 4 fois, monsieur. Et pendant 4 voyages, j'ai interrogé les populations. J'ai demandé aux gens. Et parce qu'il y avait quand même une assez forte insistance de la part des médias et de certains politiques en Europe. Et j'ai demandé aux gens. Donc je me demande, vous qui me posez la question, êtes-vous au moins allé en Libye? Avez-vous rencontré des Libyens? Leur avez-vous posé la question? Avez-vous constaté les conditions de vie dans lesquelles ils vivaient? Dans lesquelles les Libyens vivaient? Eh bien, moi, j'ai trouvé un pays magnifique. J'ai trouvé un pays où les Libyens ne manquaient de rien. tout le monde me disait d'ailleurs, ils remerciaient leur guide, ils remerciaient le guide Mohammed Kadhafi de tout ce qu'il faisait, etc. Et qu'ils voulaient le garder. Et d'ailleurs, vous avez vu à la télévision, sur la chaîne de télévision Al Jamaria, qui est censurée par l'OTAN et par l'OTAN en ce moment, la chaîne libyenne. Eh bien, avant qu'elle soit censurée, nous avons vu à la télévision plus de 5 millions de manifestants sur une population de 6 millions en train de manifester avec des drapeaux verts, avec la photo de Muammar Kadhafi, les gens demandaient à garder leur guide Muammar Kadhafi. Ils refusaient toute cette croisade, toute cette manipulation, toute cette guerre contre leur pays, et ils disaient qu'ils voulaient garder leur guide. Et qu'est en train de faire l'OTAN ensuite? Eh bien, l'OTAN bombarde et est en train de punir la population en lui envoyant des bombes, en lui envoyant du terroriste, en tapant à droite et à gauche, pour leur dire, eh bien, puisque vous voulez garder votre guide, on va vous massacrer.
Oui, Sven Bedrouni, vous parlez de l'OTAN, effectivement. Et si l'OTAN et la rébellion prennent aujourd'hui la responsabilité de bombarder, de chasser et de capturer Kadhafi, ne pensez-vous pas que c'est du fait de l'incapacité de l'Union africaine à trouver une solution à cette guerre en Libye et qui cause des milliers de morts, vous venez de le soulever. Bon, peut-on dire que c'est encore un nouvel échec pour l'Afrique, Sven Bedrouni?
J'ai pas compris le début de la question. Vous m'avez dit si.
Je disais si l'OTAN et la rébellion ont pris la décision et aujourd'hui et la responsabilité de bombarder, de chasser ou de capturer Kadhafi. Bon, ne pensez-vous pas que c'est du fait de l'incapacité de l'Union africaine qui n'a pas trouvé de solution à cette guerre en Libye? Et est-ce qu'on peut dire que c'est encore un nouvel échec pour l'Afrique, Esmen?
Non, c'est pas un échec. De toute façon, c'est un échec pour l'Afrique. De toute façon, au niveau politique, ça a déjà été un échec pratiquement dès le début. Mais c'est pas un échec qui est perdu, c'est pas un échec définitif. Ce qui est important, c'est que l'Afrique a pris conscience de la réalité, est en train de travailler. D'ailleurs, ils viennent de faire quelque chose de magnifique en refusant de reconnaître le CNT, parce que l'Afrique sait que la CNT est une énorme supercherie politique, c'est une supercherie de Nicolas Sarkozy avec sa bande, c'est une bande de mafieux internationaux qui veulent dominer le monde et qui veulent dominer l'Afrique, l'Afrique ne va pas se laisser faire comme ça aussi facilement, c'est normal. Et il n'y a pas que l'Afrique qui commence à se rendre compte, il y a la Russie, il y a le Venezuela qui le sait aussi, qui a compris depuis le début avec d'autres pays, la résistance sera mondiale, elle prend un petit peu de temps parce que il faut que les mentalités, il faut que les gens comprennent, mais de toute façon, nous arriverons à la réponse. D'ailleurs, je pense que la plus cinglante réponse de la part de la Libye, ce sera une réponse politique internationale à cette supercherie à laquelle nous assistons aujourd'hui. Et pour moi, l'Afrique, c'est vrai que l'Afrique a freiné, mais ceux qui ont fait la plus grave erreur, en réalité, c'est pas forcément l'Afrique. Moi, pour moi, c'est la Ligue arabe.
Ce sont les pays arabes. Esmine, malheureusement, le temps est contre nous et nous allons. J'espère que Romain a une dernière question. Romain?
Oui, M. Ismaël Bedrouni, selon le rapport dernier d'Amnesty International, il y a eu violation et massacre des droits de l'homme des deux côtés, aussi bien du côté des rebelles que des loyalistes. Est-ce que vous avez une impression là-dessus?
Alors, moi, ce que je vois aujourd'hui, effectivement, c'est ce que je dénonce depuis des mois et des mois. Ces crimes contre l'humanité dont vous parlez. Il y a des exactions qui sont commises de la part des rebelles. C'est sûr et certain. Nous avons des preuves. Et d'ailleurs, j'ai des personnes que j'ai moi-même rencontrées.
Dans le camp de Kadhafi. Hein, ça, il faut aussi le soulever, M. Sven Bedrouni.
Je ne peux pas affirmer ce que je n'ai pas vu. Vous comprenez? Et peut-être qu'il y a des allégations, mais il faut des preuves. Mais moi, je parle de ce dont nous avons comme preuve, les preuves que nous avons concernent les gens de la CNT et les agents de l'OTAN. Oui. Ceux-là, oui. Ce sont des gens qui ont violé, qui ont kidnappé, qui ont tué, qui ont torturé, estropié, quoi, vite fait, vraiment des monstres. Ça, oui, il y a des preuves de tout ça. Par contre, pour les forces, comme vous dites, les forces de Kadhafi, ça, je n'ai pas eu, et j'ai beau chercher, hein. Je vous assure, ça fait des mois et des mois que je travaille sur le dossier, je ne trouve pratiquement rien. Des gens parlent, j'entends des allégations, mais des preuves, aucune. Et moi, je travaille avec des preuves, je travaille pas avec des allégations ou des accusations, comme a fait Nicolas Sarkozy depuis le début. Ils ont accusé un guide qui n'est même pas roi, qui ne règne même pas sur le pays, alors que vous m'avez dit qu'il règne depuis 40 ans. Pour moi, il ne règne pas sur le pays. C'est le pays qui est souverain. C'est le peuple qui règne dans son propre pays. Et c'est ça la Jamaria. C'est ça l'organisation nationale de l'organisation du pays fait que c'est le peuple qui a le pouvoir et non pas une seule personne. Et là, on essaie de changer le système et de faire en sorte qu'il y ait un seul chef qui va contrôler le peuple, mais ce chef sera aux ordres de Nicolas Sarkozy, enfin aux ordres de l'Europe, aux ordres des croisés de Nicolas Sarkozy et de sa clique, quoi.
Oui, Ismaël, vous savez, la crise ivoirienne avait divisé les Africains, et actuellement la guerre en Libye encore plus. Hein. Même certains chefs d'État africains ne se disent pas prêts à reconnaître cette coalition fortement soutenue par les Occidentaux. Quelles sont, selon vous, les conséquences directes de cette guerre en Libye et de ce surcroît la suite de Kadhafi, hein, qui a quand même dirigé ce pays d'une main de fer, selon des informations, Ismaël Bedrouni?
Pour l'instant, il n'y a pas de chute de Kadhafi. Hein. Pour l'instant, ce sont les médias qui sont en train de faire du cinéma. Ils ont dit d'ailleurs hier qu'ils avaient pris le poste de Ras Jdid à la frontière tunisienne, alors qu'on a téléphoné, on a eu directement la région là-bas. Ils nous ont dit non, le poste frontière est toujours là, on y est, il n'y a personne. Il y avait des combats à 20 ou 30 kilomètres plus loin, c'est tout. Hein. Enfin, c'est encore des accrochages. Quoi. Et la presse nous disait ils ont pris Ras Jdid. Bon, tout ça, ce sont... C'est la guerre psychologique, c'est la guerre du mensonge, c'est la guerre.
Oui, Ismaël, oui.
Et
selon vous, quelles seront les conséquences directes de cette guerre en Libye, Ismaël?
Alors, les conséquences, ça va continuer parce que l'OTAN a décidé de poursuivre sa guerre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, le guide ne va pas tomber. Il va pas tomber parce que il a son peuple avec lui. Je vous avais dit une population de 6 millions, il a plus de 5 millions et de plus en plus de Libyens ont compris et se mettent du côté de Kadhafi. Donc tout ça n'a fait que renforcer justement les rangs de Kadhafi et même au niveau international parce que le monde est en train de voir la vérité sur cette histoire et il y a beaucoup de témoignages. Donc maintenant. Les conséquences, ça va être quoi? Kadhafi, ils l'auront pas. Ils l'auront pas si facilement. Hein, c'est difficile de prévoir l'avenir. Moi, je suis pas devin, mais il y a des choses quand même qui sont quand même assez évidentes. Muammar Kadhafi est un résistant. C'est un militant. C'est un guide et c'est un combattant. C'est un mujahid. Donc quand vous savez que toute sa vie, il a travaillé avec un certain objectif, avec une certaine ligne, et qu'il a, il a combattu contre le colonialisme, il a combattu contre tout ça, c'est un héritier d'Omar Mokhtar, son peuple est héritier d'Omar Mokhtar. À mon avis, il est inconcevable, à mon sens, que un homme comme lui soit resté 40 ans au pouvoir, comme vous dites. Soit resté 40 ans dans un pays sans avoir travaillé à ce qui est en train de se passer, à préparer et se protéger, et protéger son pays et son peuple à ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Oui, Ismaël, écoutez, la coalition s'est déjà installée à Tripoli, selon des informations, pour préparer l'après-Kadhafi. Hein. Est-ce que faut-il vraiment s'inquiéter de l'après-moment Kadhafi?
Mais elle ne s'est pas installée. La coalition ne s'est pas installée, c'est ce que les médias vous disent, mais la réalité, c'est pas ça. Et d'ailleurs, j'ai vu les images à la télévision. Il y a un des chefs de la coalition, qui s'est installé dans un hôtel à Tripoli. Cet hôtel, je le connais très bien, puisque justement, c'est là que nous venons de passer une dizaine de jours, dans cet hôtel. Donc, j'ai reconnu tout l'hôtel, j'ai reconnu le personnel, etc. Maintenant, ils sont arrivés, il faut savoir qu'il y a des combats à Tripoli, que il y a des stratégies qui sont mises en place, et voilà, moi je pense que la vérité on la connaîtra pas aussi facilement, aussi rapidement. Il faut pas aller trop vite dans l'interprétation des événements, et on va voir, l'avenir nous le dira.
Oui, Ismaïne, pour conclure cette interview que vous avez bien voulu nous accorder, et alors quel sera votre message à l'endroit des peuples africains, et car le constat est amer que l'Afrique n'arrive pas elle-même à régler ses propres conflits?
Bien, le message que j'ai donné à l'Afrique, c'est refuser toute cette supercherie. Opposez-vous à tout ce qui est en train de se passer en Libye et tout ce qui est en train de se préparer contre l'Afrique. C'est tout ce que je demande. Éveillez les consciences, avertissez, vous soyez des gens avertis, et d'ailleurs vous l'êtes, et résistez. Résistez de manière politique, de manière économique, de toutes les manières, résistez.
Merci beaucoup, Ousmane Bédouni. Je rappelle que vous êtes responsable de la voix des opprimés. Merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique depuis la France. Oui, et nous sommes toujours dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. La crise ivoirienne touche toute l'Afrique et Romain est toujours en ligne. Et pour cela, Romain, j'espère que Romain voulait faire quand même à la Libye et voulait envoyer un message très très important sous forme de cri de détresse à la Libye. Romain, je pense que tu es en ligne. Tu peux quand même envoyer ce cri de détresse à l'Afrique et à la Libye.
Notre cri d'alarme, en ce moment précis de Ramadan, période de jeûne et de carême, ou sur le continent africain, le peuple ami de la Libye est en train de compter ses morts et de pleurer ses enfants. Fenêtre sur l'Afrique, votre émission hebdomadaire et toute l'équipe, aussi présente en Europe que sur le continent africain, joint sa voix à travers la mienne, pour compatir. Oui, compatir à la douleur aussi profonde que déchirante à la Libye tout entière, du sud au nord, passant par tous les foyers de tension de ce pays. De Misrata à Benghazi, au Ras Lanouf, jusqu'en Sirte. Oui, ce beau pays arabe qui est en train d'écrire une nouvelle histoire vers la marche de plus d'épanouissement et de liberté dans le sang. Votre combat à Misrata, c'est notre combat. Votre douleur à Ras Lanouf, c'est notre douleur. Votre peur qui doit changer de camp à Benghazi, c'est notre peur. Alors, ensemble, soyons en communion et soutenons-nous dans la douleur. Le cri et les pleurs de nos frères, de nos amis et camarades libyens de toute l'Afrique ensemble nous interpellent. Peuple frère de Libye, vous n'êtes pas seul. Allah est avec vous. Et nous aussi, nous faisons de votre combat le nôtre. Nous faisons de votre combat de liberté et de dignité dans la Libye de demain notre sacerdoce. Que Dieu bénisse et protège la Libye des vautours prédateurs impérialistes.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Eh bien, nous sommes de retour encore une fois au Togo. Et cette fois-ci, nous allons prendre dans quelques instants un avocat de l'ancien DG de l'ex des Redémarre. Enfin, une justice transparente au Togo. C'est la question que se posent beaucoup de Togolais après la libération hier du DG de l'ex des Redémarre, une société de microfinance installée à Lomé. Accusée d'escroquerie, la Cour a estimé estimé qu'en absence d'une plainte, on ne peut pas juridiquement inculper Sama Essoham, l'homme, et a demandé donc sa libération. L'homme a passé plus de 385 jours à la prison civile de Lomé et sa société a été dissoute par le gouvernement et les actifs distribués de façon opaque par ce même gouvernement. Nous avons suivi ce dossier de près pour vous depuis son début et maintenant que le DG de Redeman a recouvré sa liberté, nous allons tout de suite nous entretenir en ligne, en direct depuis Lomé, bien sûr, et l'avocat qui est déjà en ligne, nous allons le prendre tout de suite. Maître Tassanté Gbati-Georges, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Merci d'être en direct avec nous, merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique et merci également d'être en direct depuis Lomé. Vous êtes l'un des avocats de M. Sama Essoham et le plus actif de ce dossier. Le DG de Redemar a finalement recouvré la liberté depuis hier, hein, 26 août 2011. Quel est votre sentiment, maître? Certains médias au Togo parlent déjà de liberté provisoire. Est-ce que c'est exact, maître Tassanté?
Oui, c'est exact. Il s'agit d'une liberté provisoire prononcée d'office par la chambre d'accusation sur la base de l'article 173, alinéa 2 du code de procédure pénale. Et puisque la Cour suprême a rejeté le droit formé par le procureur général après la Cour d'appel de Lomé sur l'affaire de la mise en liberté de M. Sama, eh bien, il doit pouvoir retrouver sa mise en liberté, sa liberté, ce qui a été fait hier dans l'après-midi. Donc, il s'agit d'une mise en liberté provisoire, puisque le dossier poursuit son cours jusqu'à une décision de fond, une décision de relax ou de condamnation devenue irrévocable. Voilà.
Oui, maître, plus d'une année de détention riche en rebondissements, hein, et finalement, c'est la Cour suprême qui a eu le dernier mot. Que peut-on retenir de la décision de la Cour suprême au Togo, et maître Tassanté?
La décision de la Cour suprême a deux volets. Le premier volet concerne l'aspect de mise en liberté dont je viens de vous parler instamment. Et le premier pouvoir a été fait par le procureur général après la Cour d'appel de Lomé sur la mise en liberté au motif que le parquet général n'aurait pas été entendu sur la demande de mise en liberté. La Cour suprême, sur ce point, a estimé que le procureur général était bel et bien entendu. Et a comme conséquence estimé que la décision rendue par la Cour suprême emporte certains anti-effets en ce qu'elle a prononcé d'office la mise en liberté de l'inculpé M. Sama et son femme long. Maintenant, sur le second pouvoir qui a été formé par les avocats de M. Sama, il y a plusieurs points sur lesquels la Cour suprême s'est penchée. Essentiellement, je parle du premier point. Le premier point, en principe, concerne le fait que M. Sama n'a pas reçu notification de l'ordonnance par laquelle le comité dit d'experts ad hoc a été nommé par le juge des juges d'instruction. Nous avons formé appel contre cette ordonnance. La chambre d'accusation a estimé que les ordonnances portant nomination d'experts sont insaisissables d'affaires. Et sur ce point, la Cour suprême a suivi la chambre d'accusation. Le deuxième point concerne le fait que le mandat de dépôt a été pris contre M. Sama et son âme longue sans l'interrogatoire de première comparution, comme le voudrait l'article 110 du code de procédure pénale. Sur ce point, la Cour suprême a cassé en milieu l'arrêt attaqué. Un autre point concerne les autres actes de procédure historielle dont nous avons demandé l'annulation. Sur ce point, la Cour suprême ne nous a pas suivis. Ensuite, le point sur un CV qui a été établi le 22 octobre 2010 par le doyen des juges d'instruction au motif qu'il veut corriger l'irrégularité puisque M. Sama n'a pas été entendu avant d'être déposé. Il avait cru pouvoir maintenant faire un autre PV. Nous avons estimé que ce PV n'a pas lieu vraiment décidé en droit. Et sur ce point, la Cour suprême nous a suivi en cassant et en annulant l'arrêt. Et plus loin, la chambre d'accusation, en suivant le doyen des juges d'instruction, a estimé que le doyen des juges d'instruction avait raison d'ordonner la restitution des fonds adhérents qui pourtant n'en ont pas fait de demande. point, la Cour suprême a cassé et annulé également l'arrêt. Et par ailleurs, la Cour suprême a cassé et annulé l'arrêt retiré au motif que le procureur général n'a pas qualifié pour demander en lieu et place des adhérents de Redemar la restitution des fonds. La chambre d'accusation a fondé sa confirmation de l'ordonnance du juge d'instruction sur l'article 119 du code de procédure pénale, lequel ne parle que de l'inculpé, de la partie civile ou de toute personne qui prétend avoir des droits sur les sommes déposées. Or, dans le cas d'espèce, c'est le procureur qui a formulé la demande de restitution, alors même qu'il ne fait pas partie des personnes visées par le texte. Ensuite, la Cour suprême nous a suivis en estimant qu'il y a une violation du principe sacro-saint de la présomption d'innocence, en ce qu'on ne peut pas parler de victime dans le dossier, alors même que M. Saman n'a pas encore fait l'objet d'une décision de condamnation devenue irrévocable, au fond. Plus loin encore, la chambre d'accusation a cassé et annulé l'arrêt sur la base concernant la disposition des articles 41-38 du Code de procédure pénale qui veulent en principe que ce soit juridiquement le remettant qui puisse se plaindre de ce que celui à qui elle a remis l'a exploité. Or, dans le cas d'espèce, il n'y a aucune plainte. Voilà.
Oui.
Et pour terminer. La Cour suprême a déclaré aussi le moyen fondé sur le point concernant l'ordre de donner aux institutions financières de procéder au décaissement des fonds. Donc la Cour suprême a estimé que les institutions financières ne pouvaient pas décaisser les fonds et les mettre à la disposition du directeur en chef avant toute décision de condamnation.
Oui.
Devenue irrévocable. Donc en conséquence, les fonds selon la Cour suprême demeurent sur les comptes de Redemar, juste en nouvel ordre.
Oui,
pour l'essentiel, le contenu de la décision de la Cour suprême.
Merci, Maître Tchassanté, pour ces développements. Alors, vous venez d'évoquer la restitution des fonds. Alors, que deviennent les fonds gelés de la société de microfinance Redemar?
Bon, ce n'est pas une microfinance, au limite, c'est important de le souligner. C'est un groupement d'intérêt économique, donc prévu par l'acte informe ou adat relatif aux sociétés commerciales, au groupement d'intérêt économique. Alors maintenant, pour répondre à votre question, les fonds demeurent gelés sur les comptes des différentes institutions bancaires de la place jusqu'à ce qu'une décision définitive, donc devenue irrévocable, soit rendue donc sur les poursuites engagées par le parti. Mais j'estime qu'en bon droit, on ne devait pas en arriver jusque-là parce que la décision de la question a annoncé les couleurs. Elle est très claire en ce que sans une plainte, on ne peut pas poursuivre M. Saman pour escroquerie ou tentative d'escroquerie. Voilà.
Oui, et Maître Tchassanté, face aux nombreuses irrégularités notées dans ce dossier, qui est finalement une honte, si on pourrait le dire, pour les Togolais, et surtout à la justice togolaise, qui a bénéficié des milliards de l'Union européenne pour sa modernisation, n'est-on pas loin d'une justice indépendante au Togo, Maître Tchassanté Bati Georges?
Je crois qu'il faut un peu relativiser. Parce que nous, pour notre part, nous avons estimé, du moins concernant la Cour suprême, qu'elle a statué en toute indépendance. Parce que l'argumentation a été vraiment très solide. Et c'est vraiment de la puissance du droit. Il y a des points sur lesquels nous n'avons pas eu le même point de vue. Mais nous nous sommes dit qu'on ne finit jamais d'apprendre et peut-être en cessant, nous pourrons être d'accord avec eux. Sinon, nous estimons que, pour l'essentiel, la Cour suprême a dit le droit. Donc, parlant de l'indépendance de la magistrature, j'estime que, dans ce dossier, la Cour a statué en toute indépendance. Et dans d'autres, cela peut être relevé, dans ce dossier, la Cour suprême, en toute sincérité, a dit le droit. En toute indépendance.
Oui, et Maître Tchassanté, votre client devrait être libéré le 25 août conformément à la décision de la Cour suprême, mais ce n'est qu'hier que M. Sama a été relaxé. Comment expliquez-vous cet autre dysfonctionnement, Maître Tchassanté?
En principe, il ne me revenait pas de répondre à cette question, mais je vais vous dire ce qui s'est passé à ma connaissance. Donc le jeudi, après que nous ayons eu l'extrait de l'arrêt de la Cour suprême, on ne pouvait pas avoir l'arrêt qui est très volumineux, après avoir eu l'extrait sur instruction du procureur général, après la Cour suprême, J'allais parler plutôt de l'avocat général. Le procureur général lui-même n'était pas là. L'avocat général nous a fait remettre les crêpes à le greffier. Alors nous sommes dirigés vers le procureur général. Après la cour d'appel de Lomé, il n'était pas là. On nous avait dit qu'il devait arriver instamment. Et puis s'il n'arrivait pas, on s'est adressé au deuxième suspect qui nous a dit qu'il ne pouvait pas entreprendre la mise en liberté de M. Stamman sans le procureur général. Qu'il a pourtant joué au téléphone. Alors nous avons revenu le lendemain, que j'ai dénoncé. J'ai alors moi-même appelé le procureur général qui m'a dit que la mise en liberté de M. Stamman pourrait avoir lieu dans la soirée, donc le même jour, et éventuellement le lendemain. Bon, j'ai attendu en vain, et hier, sur le passé, avec un autre confrère, et vous nous entendez dire que M. Stamman pourrait être libéré dans la matinée ou dans la soirée. Or, ce n'est pas normal, puisque la détention, c'est l'exception, et la liberté, la règle. Alors moi, je n'en pouvais plus, j'ai dit que l'inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires, qui, je crois bien, a fait son travail, parce que quand je suis revenu au cabinet, quelques instants après, j'ai été appelé par le procureur général qui m'a demandé d'amener l'arrêt de la chambre d'accusation qui a été déféré devant la Cour suprême. Je me suis rendu là, sur les lieux, pour constater que lui-même n'était pas là. Son secrétaire m'a demandé de lui remettre l'arrêt, je le lui ai remis. Et lui, à son tour, m'a remis l'ordre de mise en liberté. Et c'est là que nous sommes rendus à la prison civile de Lomé pour faire sortir M. Stamman et son amant. Voilà ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est en tout, au mépris vraiment de la loi que ça s'est passé comme cela, mais n'étant pas dans le secret des dieux, je ne peux pas savoir, en dehors de ce que j'ai vu et entendu, ça a pu se passer pour que M. Stamman reste en prison encore, malgré la décision de la Cour suprême.
Exactement. Maître Tchassanti Bati-Georges, il est tout à fait rare de gagner de tels procès au Togo où la justice est aux ordres. Félicitations, maître, et bon courage pour la suite. Et merci encore une fois pour votre intervention et votre disponibilité dans Fenêtre sur l'Afrique. Bonsoir à vous, maître.
Bonsoir à vous aussi, merci à vous.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec cette chanson de Amen Djassissé, Sidi Dioui, un jeune très politiquement engagé au Togo. Vous pouvez réécouter cette émission déjà demain sur le www.togocity.com, ici lomé.com, cvu-togodiaspora.org, mo5-togo.com. Vous pouvez également réécouter cette émission, ceux qui sont à Lomé, les Africains qui sont à Lomé, peuvent réécouter cette émission déjà demain, dimanche à 18h.
auditeurs, heure locale, heure du Togo, heure à Lomé, sur notre radio partenaire Légende FM. Excellente soirée à toutes et à tous. Sylvain Amos, Romain Koudjordi, Josué Maoli, Esteban Gagnon, Fabi Kouassi, Rodrigue Lawson.